Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler mobilité avec nos invités du jour. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis et des recommandations musicales. Mais on accueille tout de suite Jean-Luc Guichard, qui est porte-parole du collectif Vienne des usagers vélo. Bonjour.
Bonjour.
Vous vouliez revenir avec nous sur le baromètre vélo, mais on parlera aussi accidentologie, notamment pour les cyclistes ou autres usagers de la route plus vulnérables. Alors déjà, revenons sur ce baromètre qui est sorti il y a quelques semaines maintenant à la rentrée. Quelles étaient déjà les communes de la Vienne qui étaient concernées par ce baromètre et comment elles ont été globalement notées ?
Alors, le baromètre vélo, ça concerne toutes les communes. Hein, toutes les communes en France, c'est une enquête nationale. Et donc, les gens dans toutes les communes de France, à titre individuel, peuvent répondre. Dans la Vienne, ça concerne... Alors, commune, c'est un mot qui renferme des territoires très, très différents. Donc, c'est les villes comme Poitiers ou Châtellerault, mais c'est aussi toutes les petites communes de la Vienne qui pouvaient participer dans la mesure, évidemment, où les gens étaient informés de l'enquête, puisque c'est une initiative, individuelle. Quoi.
Voilà, c'est sur la base du volontariat qu'on remplit ce baromètre. Alors, Fontaine-le-Comte arrive avec une bonne note. Comment on explique cette place de Fontaine-le-Comte ?
C'est assez simple, en fait. Hein. Je dirais, dès lors qu'il y a, de la part des municipalités, un travail sur les mobilités actives, sur le plan vélo, sur des pistes cyclables, le stationnement, etc., il y a tout de suite un retour positif de la part des habitants. Alors, le paradoxe, enfin si c'en est un, c'est effectivement que sur la Vienne, c'est Fontaine-le-Comte qui arrive en tête en termes de classement. Hein. Il y a 8 communes qualifiées et Fontaine-le-Comte a la meilleure note, en fait. Bon, juste derrière, hein, si on peut aller sur le classement et poursuivre là-dessus, il y a 2 villes qui ont aussi des notes favorables. C'est les villes de Poitiers et de Châtellerault. Bon, rien de très étonnant non plus à ça. Hein. C'est-à-dire que sur ces 2 villes, il y a une municipalité qui s'investit sur la mobilité cyclable. Il y a des techniciens qui travaillent sur le vélo. Donc, le travail de ces équipes-là, il se retrouve au niveau des résultats. Donc, les notes sont un petit peu moins favorables sur Poitiers et Châtellerault, mais c'est des notes aussi satisfaisantes, en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les autres communes qualifiées. Alors, cette question de qualification, juste en 2 mots, elle est liée en fait au nombre de participations par rapport aux habitants, et il y avait des seuils. Et ce système de seuils tend quand même à favoriser les communes avec des populations importantes.
Oui, donc, alors il y a 4 ans, c'était 4 communes, et là maintenant on passe à 8. Donc
il y a quand même plus de gens
qui participent.
Puis on parlera peut-être un petit peu aussi des communes non qualifiées, parce que en fait, c'est pas parce que les communes sont pas qualifiées que il n'y a pas des informations intéressantes sur ces communes. Alors, sur les 5 communes qualifiées suivantes, les résultats sont moins satisfaisants. Ce sont des communes dans la périphérie de Poitiers, donc c'est le cas de Chasseneuil, c'est le cas de Migny-aux-Ans, c'est le cas de Ligugé aussi, en fait. Et puis sur Châtellerault, il y a 2 communes, et c'est la première fois aussi que ces 2 communes-là sont qualifiées. Donc il y a Senon-sur-Vienne et il y a Colombier. Les communes non qualifiées, souvent c'est lié, alors sur la périphérie de Poitiers, c'est les communes qualifiées plutôt, les notes sont un peu plus faibles, alors parce qu'il y a des problématiques directement, je pense à Ligugé où il y a une vraie problématique d'accès à vélo à Poitiers, sécurisé, hein, qu'il faudrait résoudre. Et donc ça, on le voit clairement dans les... Alors les gens mettent des notes, puis mettent des commentaires, on voit clairement ça dans les résultats. Sur Migny-aux-Ans aussi, il y a un certain nombre de difficultés. Alors sur le baromètre vélo, de manière générale, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes pouvaient indiquer sur des cartes les points de satisfaction et les points à améliorer, les points qui posaient problème. Puis un troisième critère, c'était qu'ils pouvaient indiquer aussi leur désir de stationnement vélo. Parce que le stationnement vélo, c'est quelque chose de quand même assez sensible aussi, assez intéressant. À partir de ça, on peut voir donc de manière très très détaillée. Alors nous, au niveau du collectif, on a fait un gros travail de cartographie en fait de ces choses-là. Ça, on peut le voir hein, sur notre site web.
Tout le monde peut y accéder.
Voilà, c'est ça. Alors pour revenir à Migny-aux-Ans, il y a un des clusters points à améliorer, c'est le rond-point Porte de Lausanne, c'est-à-dire le rond-point qui franchit la rocade. En fait, au niveau de Migny-aux-Ans, qui est clairement, c'est un lieu assez anxiogène à vélo, en fait, à traverser. On va retrouver des clusters à améliorer. Il y en a un à Poitiers, c'est la Porte de Paris, qui historiquement, bah, c'est un lieu où il y a des intersections dans tous les sens, sur lequel aujourd'hui, enfin, qui va être connecté à des projets cyclables, parce qu'il va y avoir une liaison vers le Futuroscope. Donc, clairement, aujourd'hui, ouais, c'est un lieu qui génère de l'angoisse un petit peu pour des cyclistes. Et donc, je pense que, la ville, l'agglomération est intéressée par ce sujet et travaille là-dessus.
Il y avait différents critères. Hein. Il y avait la sécurité, le confort, les efforts de la commune, justement, les équipements en stationnement vélo et les services de réparation ou d'entretien. Ce sont ces différents critères qui font le classement final.
Voilà, qui font le classement. Voilà. Sur Châtellerault, pour terminer sur les clusters en difficulté, il y a le pont Camille de Hogue. Sur Châtellerault, il y a deux ponts pour franchir la Vienne. Et ce pont-là est assez étroit. Et là, clairement, il y a une problématique de sécurité. La ville est au courant par rapport à ça, hein, de ce problème-là. Et clairement, ça sera un sujet à aborder sur les prochains mandats. Et puis, je pense qu'on a fait le tour des clusters en problématiques. Alors, pour contrebalancer, il y a quand même plein de points de satisfaction. Sur Poitiers, alors Poitiers, c'est vraiment emblématique. On retrouve un axe, en fait, qui est l'axe qui remonte du Faubourg du Pont-Neuf. Donc là, clairement, c'est vraiment un gros point de satisfaction sur lequel la ville a beaucoup travaillé. Ce point de satisfaction continue d'ailleurs jusqu'ici, puisqu'il y a l'avenue du recteur Pinault, en fait. Donc clairement, ça, c'était une priorité, parce qu'effectivement, c'est l'axe de liaison entre l'université, entre ensemble de, je dirais, de flux.
Le centre-ville, puis le CHU, ouais, maintenant, voilà, il y a aussi l'avenue Jacques-Cœur, voilà, qui a été aménagée.
Exactement. Et clairement, aujourd'hui, ça, c'était problématique à vélo, et ça s'est beaucoup amélioré. Sur Châtellerault, il y a un cluster aussi sur lequel les choses se sont améliorées. C'est le rond-point Vitzer, c'est le rond-point de la Poste à Châtellerault. C'est un gros rond-point qui est au-dessous de la place du centre-ville, sur lequel il y avait beaucoup de soucis. Il y a un travail qui a été fait. Il y a aujourd'hui des avis un petit peu divergents, mais il y a beaucoup de points de satisfaction. Les giratoires sont clairement un point sensible. Et ça, on le retrouve sur les cartes, en fait, de points de difficulté. C'est-à-dire, globalement, comment je franchis ces ronds-points. Et puis, si on va un peu plus loin, comment je franchis la rocade. Un des points qui revient, c'est aussi de manière récurrente dans ce baromètre, c'est les conflits entre usagers. En fait, donc les tensions qui peuvent exister avec les automobilistes, ce que disent globalement les personnes, c'est ce dont ils ont peur, c'est la vitesse et la proximité lors des dépassements. Bon, quand on fait du vélo, on voit bien de quoi il s'agit. On est confronté à ça. Hein, donc il y a un travail à faire là-dessus. Et puis à étudier après si en termes de flux, il faudrait pas mettre en place des aménagements, réduire les vitesses pour sécuriser un peu la circulation. Quoi.
Et alors, par rapport à il y a 4 ans, on voit quand même une nette amélioration des résultats ?
Oui. Alors, là où on agit, oui. C'est aussi simplement que ça. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que les gens avaient une question dans laquelle ils pouvaient répondre de manière très libre. Donc, on a concaténé toutes ces réponses, puis on les a travaillées. Et effectivement, ce qui revient, c'est globalement, notamment sur les villes de Poitiers et de Châtellerault, il y a eu de franges d'amélioration. Et puis, il y a un mais derrière. Et le mais, évidemment, c'est mais il reste beaucoup de choses à faire. Légitimement, c'est-à-dire que une ville, c'est tout un territoire. Quand on travaille sur la politique cyclable, on va privilégier peut-être certains axes dans un premier temps, en fait. Et puis, je prends l'exemple de Châtellerault. Les points de satisfaction sont essentiellement, je dirais, sur une ligne verticale, en fait. Rive de Vienne. Qui est vraiment un axe prioritaire pour la ville. Avenue Pierre-Ablin, où il y a une liaison qui a été faite. C'est lié aussi à des financements, en fait, des opportunités de financement, d'aide, etc. Et donc là, il y a eu des aménagements, donc les gens sont contents de ce qui a été fait. Et puis, si on part sur les côtés, là, c'est beaucoup plus problématique. La rocade sur Châtellerault est récente, relativement récente, et pour l'instant, il n'y a rien eu de fait, en fait. Donc, après, il faudra s'attaquer aux étapes suivantes. On arrive en fin de mandat, sur les mandats. Alors là, on a vraiment, un gros dossier qui ne vient pas, des militants vélos, en fait. Et c'est là où je trouve ça très intéressant. 1279 réponses, beaucoup de réponses dans l'espace rural, en fait. Et donc là, on a toute une base de données que nous, on a analysées, etc., et qu'on est prêt à partager avec les personnes qui veulent travailler sur les politiques cyclables à l'avenir.
C'est vrai que c'est un outil pour les municipales
clairement,
à venir.
Clairement. Et donc, pour finir, les trois quarts des personnes qui ont répondu ne sont pas des personnes adhérentes d'associations vélo. C'est pas des militants vélo. Parce qu'on est souvent dans des logiques, un lobby contre un autre lobby, etc. C'est pas le cas. Si on va sur l'espace rural, les gens qui font du vélo sont aussi des gens qui se déplacent en voiture. Donc, il faut sortir, des représentations un petit peu clichés. C'est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser.
En tout cas, tout est en ligne. N'hésitez pas effectivement à aller consulter cette cartographie. Vous vouliez revenir juste pour finir sur l'affaire tragique de Saint-Jean-de-Sauve où un cycliste malheureusement a été percuté et décédé le procès qui a eu lieu.
Oui, l'autre point sensible, je dirais aujourd'hui sur les mobilités actives, c'est la sécurité, en fait. Et encore plus, autant en ville où il peut y avoir des tensions, mais aussi à la campagne où généralement il n'y a pas d'aménagement cyclable. Alors, depuis le début de l'année, il y a eu 5 morts, puisqu'il y a une personne qui est morte hier, un nouvel usager vulnérable. Il y avait eu déjà 4 décès, 2 piétons, en fait, et 2 cyclistes depuis le début de l'année dans la Vienne, ce qui, de mon point de vue, est trop. Il y a un monsieur donc qui a été accidenté à Saint-Jean-de-Sauve, un cycliste cette affaire-là est passée en correctionnel au mois d'octobre et puis le jugement a été rendu donc la semaine dernière et il y a eu une relaxe. Notre collectif était présent lors de l'audience et on a regretté, alors sur cette audience on n'était pas les seuls à le regretter puisque les avocats s'en sont émus aussi, c'est un procès sur lequel il n'y a pas eu d'expertise en fait. Premier point, donc la première chose quand même sur laquelle on doit systématiquement s'interroger en cas d'accident, c'est la vitesse. C'est la première cause d'accident mortel. Un accident sur 3, c'est les statistiques donc de la sécurité routière, un accident sur 3 est lié à la vitesse. Un accident sur 4, ça peut être l'alcool, un accident sur 5, ça peut être les stupéfiants, ça peut être cumulatif, il peut y avoir plusieurs raisons.
C'est souvent cumulatif.
Voilà, et jusqu'à 3 raisons dans les rapports de police. Globalement, donc il faut s'intéresser à la vitesse. On ne peut pas se contenter de la déclaration de celui qui conduisait, qui a tout intérêt à se défendre, et c'est tout à fait logique, quoi. Donc, sur cette audience, les témoins n'ont pas été entendus. Alors, il y avait 2 témoins, il y avait un cycliste, les cyclistes étaient 2, donc il y a un cycliste survivant, il n'était pas là à l'audience. Et puis, il y avait un automobiliste, puisque l'automobiliste doublait une autre voiture, ce monsieur n'était pas là non plus à l'audience. Pour chercher à mieux comprendre ce qui se passait dans cette affaire, notre collectif s'est rapproché des témoins. Et leurs témoignages contredisent largement le témoignage de l'automobiliste. Aujourd'hui, là aussi je me suis renseigné pour le collectif, l'expertise accidentologie a énormément progressé. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de reconstituer des accidents, de les modéliser en 3D, etc., etc. Donc ça n'a pas non plus été fait. Il n'y a pas eu d'expertise. Je dirais de professionnels sur cet accident-là. C'est navrant pour différentes raisons. C'est navrant, premier, pour la famille, parce qu'elle a un chagrin, les personnes sont en colère, et on voit mal comment ils pourraient faire leur deuil après un jugement aussi partiel. Et puis, ce qu'on voit, nous, association d'usagers, c'est à chaque fois quel enseignement on en tire. Est-ce que le lieu, je dirais, présentait des caractéristiques d'accidentologie potentielles? Et ça, après un accident, il faudrait systématiquement le mesurer. Et puis, qu'est-ce qu'on envoie comme message aux automobilistes, aux différents protagonistes? Puisque derrière, c'est ce qu'il faudra améliorer, c'est le comportement de chacun. Donc, notre association est vraiment donc très attentive à ce dossier et on souhaite que, je dirais, cette décision d'appel, en fait, moi je suis pas expert expert judiciaire, mais je crois que cette décision d'appel, en fait, ne peut être qu'à l'initiative du parquet. En fait, la défense elle-même peut pas faire appel toute seule. Donc la défense peut demander au parquet de saisir en appel sur cette affaire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un jugement vraiment plus rigoureux sur cette affaire et qu'on puisse en tirer les leçons.
Le message est passé. Merci beaucoup Jean-Luc Guichard, donc porte-parole du collectif Vienne des usagers vélo, d'être venu nous présenter ce baromètre et puis nous alerter effectivement sur le traitement de ce dossier. Merci beaucoup. On continue en musique avec Krav Boka, qui est donc un rituel punk prenant vie sous les mots de rappeur masqué d'un trio guitare-batterie-mandoline. Et là, c'est en collaboration avec Aeon sur ce titre Night Owls.
En parlant mort sur message crypté, et pour t'éteindre il faut juste impliquer. On s'habille en noir, tout est très codifié. Pourquoi faire simple quand on peut compliquer? Et depuis la touche, tout le terrain est miné. Derrière la cagoule, regard déterminé. Rien à foutre des carrières, on explose les barrières. Sous la même bannière, y'aura pas de marche arrière. L'arrêt, la manière, dès que je sors de ma tanière. Des accès de colère, de folie passagère. Alors on fait la guerre, depuis naguère. Et je lève mon doigt à tout leur canard.
canadaire. Encore un commerce disparu, des condés, y'en a disparu. Les yeux écarquillés, je reconnais pas mon quartier. À 4 du mat, c'est pas du cacola qu'on écoule. On gueule plus qu'on écoute, on joue à celui qui s'écroule. T'as mis la playlist tracée sur le périph. J'ai tagué nique la police sur les murs et tous les plexis. Ça sert à R, certes, mais tu les emmerdes tous. Ouais, tu baisses tout, ça t'apaise de ne plus retenir tes coups. 7 heures, le réveil sonne, quotidien qui t'assomme. Tu redeviens personne, la sérine, c'est la somme. Dans les tunnels de métropolis, les voix s'additionnent. Dans l'estomac, les anxiolytiques dansent le Madison.
Χώμα, μέταλλο, βία, μπετό. Παίζει ορχήστρια μας πάντα από το γερό κόντρα. Χώμα, μέταλλο, βία, μπετό. Κουκουβάγες της νύχτας, σας σβήσουν τα φώτα. Χώμα, μέταλλο, βία, μπετό. Δες χακάρουν τις πόλεις να ζουν όπως πρώτα. Χώμα, μέταλλο, βία, μπετό. Κουκουβάγες της νύχτας, σας σβήσουν τα φώτα. Χίλοι αυτοί μου αγωνίζονται τα βράδια. Κι άλλοι χίλοι προσπαθούν απεγνωσμένα για να ζήσουν. Είμαι παιδιά που μάθανε νωρίς τον πόλεμο. Παιδιά που αφήσανε στη Γάζα να λιμοκτονήσουν. Που είναι ο πόλεμος που σου φαινόταν άβατο. Γάμιασε στη δουλειά για να ξεφτύλεις με ένα Σάββατο. Φίλοι σερβίρουνε γενοκτόνους τουρίστες. Και φίλες καθάριζαν Airbnb για μεροκάματο. Στα 10 κρίσεις, στα 20 καραντίνα. Και δεν ξέρεις αν μαζέψεις ούτε το νικη του μήνα. Ξέρω ποια είναι η μάχη μας και ποιος είναι το θύμα. Και ξαγρυπνώ να τραγουδώ τα βράδια στην Αθήνα.
Χώμα, μέταλλο, βία, μπετό. Παίζει ορχήστρα μας πάντα από το γερό κόντρα. Χώμα, μέταλλο, βία, μπετό. Κουκουβάγες της νύχτας, σας σβήσουν τα φώτα. Χώμα, μέταλλο, βία, μπετό. Δες χακάρουν τις πόλεις να ζουν όπως πρώτα. Χώμα, μέταλλο, βία, μπετό. Κουκουβάγες της νύχτας, σας σβήσουν τα φώτα.
Pulsar 95.9.
Ah ouais.
Il y en a qui maintenant Gérard Blottière qui est président des Autos du Cœur. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter cette action et puis votre appel à don de véhicules. D'abord, on va rappeler ce que sont les Autos du Cœur. Ça fait déjà 22 ans que vous œuvrez sur le territoire.
Exact. Depuis 22 ans, c'était à Poitiers, à Amboise. Depuis 5 ans, basé à Buxerolles. Et nous œuvrons sur le plan national.
Et alors, en quoi consistent les Autos du Cœur? Quel est le concept?
Alors, le concept, c'est déjà à la base la générosité des donateurs. Donc, nous, pour qu'on puisse exister, il faut que les citoyens nous fassent don de véhicules. Et nous, comme nous sommes reconnus d'intérêt général, nous faisons un CERFA pour un avoir fiscal. Bon, donc le point clé est là. Des demandes, là, il n'y a pas de problème.
Et à qui sont-ils destinés, ces véhicules?
Des gens dans le besoin, des étudiants aussi, on en a pas mal. C'est bien beau de venir à l'université, mais lorsqu'on habite à 15, 20, 30 kilomètres, il faut un véhicule. Un vélo, c'est bien, mais parfois... L'hiver, un véhicule, c'est quand même mieux. Donc, il passe obligatoirement par une assistante sociale qui monte un dossier, qui peut avoir des aides, différentes aides, que ce soit régionales, nationales, les CAF pour les gens avec famille, les départements et beaucoup d'autres lieux où on peut avoir des aides. Nous ne montons pas les dossiers. On peut indiquer pour avoir un microcrédit si l'aide ne suffit pas. Donc nos véhicules sont cédés ensuite, remis en état, garantis, entre 2 500, 2 800 euros et 6 000, 7 000 euros maximum. Nous avons des véhicules donnés qui valent plus cher, mais ça ne correspond pas particulièrement aux gens dans le besoin. Donc, c'est des femmes divorcées aussi, on a pas mal, qui se retrouvent sans véhicule. Puis des familles dans le besoin, des retraités aussi. Il y a tout niveau social, tout âge. Il y a parfois des moments durs dans la vie. Et comme je vous ai dit, des étudiants. Mais le point crucial, effectivement, c'est le nombre de véhicules. Bon, là, depuis quelques jours, on a eu une dizaine de dons de véhicules. Nous cédons 200 véhicules dans l'année. Ça pourrait être 300, mais on n'a pas la quantité de véhicules.
Alors, oui, allez-y.
Pour ce faire, c'est 65 bénévoles dans toute la France et deux permanents. Il y a deux permanents et les bénévoles, c'est pour aller chercher les véhicules dans toute la France. Nous avons quand même, la majorité est basée à Saint-Georges-les-Bellargeaux, notre parc. Ensuite, nous en avons en Bretagne, nous en avons dans les Alpes-Maritimes, à Lyon, dans les Vosges, sur la région. Bon, voilà, on a dans toute la France, certains dépôts. Le stock principal étant sur Poitiers.
Et comment vous avez vu justement à la fois les dons et les bénéficiaires évoluer au cours de ces 22 années ?
Alors, je ne peux pas, moi, vous parler des 22 années puisque je ne connaissais pas l'association. Il n'y a que 6 ans que je la connais et que j'ai repris la présidence il y a 5 ans. Des demandes, il y en a beaucoup plus. D'avoir des véhicules, c'est plus dur parce que la durée de vie des véhicules ou le changement plutôt des véhicules par les usagers, c'est plutôt près de 10 ans.
Oui, ça s'allonge, hein, parce que les véhicules sont de plus en plus chers, en fait. Voilà. Il y a une difficulté.
Le prix de l'occasion grimpe. Donc, comme c'est 66% lorsqu'on donne un avoir fiscal de 5 000 euros, c'est que 66%. Donc, les gens, ils le calculent maintenant. Je vois hier, j'ai négocié avec une personne. Bon, c'était une voiture qui avait 15 000 km. Ils ont eu une attaque, malade, ils ne peuvent plus conduire et ils veulent faire don du véhicule. Ils auraient pu le vendre demain 15 000 euros. Donc, nous, on a négocié pour le reprendre largement moins cher. Ils ont accepté. Mais la personne a bien fait son calcul de 66% avant de nous accorder de venir chercher le véhicule. Il y a encore un an, à 98%, les gens nous donnaient le véhicule, on allait le chercher, et c'est après qu'on négociait un peu la valeur du don. Maintenant, ça s'inverse. On veut connaître la valeur du véhicule pour les impôts avant de nous donner le véhicule.
Et ça devient plus compliqué du coup pour vous de remplir cette mission. Quelles sont les étapes pour qu'un véhicule soit donné alors d'abord à l'association et ensuite donné aux bénéficiaires ?
Alors l'étape, d'abord, c'est d'aller sur notre site, hein, lesautoducœur.fr. Il y a une fiche donateur, une fiche bénéficiaire. Donc, il y a tous les renseignements qui sont donnés dessus. Et on remplit un dossier. Si on veut donner le véhicule, on remplit un dossier. Si on veut avoir droit à un véhicule. Malgré tout, on renvoie les personnes sur les assistantes sociales. Nous ne décidons pas qui a droit à un véhicule. À part 3-4 véhicules, notre commissaire aux comptes nous l'autorise, qui valent cher, ou on essaye autour de nous de céder le véhicule parce que ça ne correspond pas à la demande, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est trop cher.
Et vous, aujourd'hui, les difficultés que vous rencontrez, c'est la problématique de trouver des véhicules. Est-ce que ceux que vous recevez aussi sont peut-être plus en fin de vie qu'avant ?
Plus en fin de vie qu'avant. Sur les 200 dons de véhicules, on peut dire en 2025, il y en a 20 qui sont partis en destruction ou en récupérateur pour les pièces détachées.
Oui, donc vous ne pouvez plus, vous pouvez
non.
pas les, les.
Lorsqu'on fait les faire un devis, si c'est 5-6 000 euros, ce n'est pas possible, c'est trop cher. Donc, et on garantit les véhicules, comme je vous l'ai dit, sans distinction. Pas comme un garage, on garantit qu'une partie. Nous, on garantit la totalité pendant 3 mois de tout le véhicule.
Et comment vous sensibilisez le grand public à l'importance de cette mobilité solidaire, l'utilisation de ces véhicules ?
C'est pas simple. C'est le plus dur. On a eu une fois au journal, au TF1 de 13h, on a parlé de nous. Là, ça nous a amené des dons, mais beaucoup plus de demandes. Mmh. Le standard était débordé. Pourtant, il y a des milliers de voitures qui dorment. Dans les donateurs, il y a pas mal de... Bah, c'est des personnes qui décèdent, c'est les enfants qui prennent la suite, il y a la voiture de leur père, de leur grand-père, on nous fait des dons. Et on a des gens régulièrement, tous les temps d'année, nous donnent un véhicule, ne le font jamais reprendre par le garage lorsqu'ils achètent un véhicule neuf et nous font don de leur véhicule. On voit la générosité quand même. Le français rouspète tout le temps, mais il peut être très généreux aussi.
Et c'est important, vous le disiez, pour des personnes qui se retrouvent à un moment difficile de leur vie, à plus pouvoir être véhiculées, peut-être à la recherche d'un emploi, peut-être pour ses études, peut-être pour ses activités.
Alors, la recherche d'un emploi, c'est un des premiers critères, parce qu'on a les preuves. On nous envoie la possibilité d'embauche, mais il faut un véhicule. Puis toujours la distance pour aller travailler. Hein, on retrouve toujours la même chose. Hein. On a beau dire, prenez les transports en commun. Si vous, à 10 km autour de Poitiers, il n'y a plus...
C'est plus compliqué, en
tout cas. De transports en commun. On n'est pas à Paris, Bordeaux, Lyon, où là, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a encore près de 90% des Français qui ont besoin d'un véhicule pour aller travailler. Bon, on parlait des deux roues tout à l'heure, les vélos. En courte distance, oui, bien sûr. Prenez les vélos, on n'est pas contre.
Merci beaucoup Gérard Blottière, donc président des Autos du Cœur. 22 ans déjà que cette association agit sur toute la France. Et là, de plus en plus de difficultés pour trouver des véhicules. Donc l'appel est lancé. Merci beaucoup.
Merci.
Demain, dans Séquence Midi, on parlera de Bignou, qui est primé pour sa lutte contre la pollution lumineuse, et puis aussi des nouveaux locaux de l'Office municipal des sports. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. On commence par un afterwork reconversion formation. Vous souhaitez évoluer professionnellement, reconversion, retour en formation, que vous soyez au début de votre réflexion ou bien que vous ayez un projet déjà bien défini, vous pourrez rencontrer des experts pour trouver des réponses à vos questions et concrétiser votre projet pour partir sur de bonnes bases et pour avancer plus sereinement dans vos démarches. Des informations, des conseils vous seront partagés par les professionnels organisateurs. Vous avez donc rendez-vous à partir de 15h et jusqu'à 19h30 à la Conciergerie du Coin à Loudun. Concert par les étudiants du pôle Aliénor, passage musical, c'est à 18h30, c'est gratuit, c'est pour tout public à l'Hôtel de l'Europe, rue Carnot à Poitiers. Et puis ce sera aussi samedi 29 pour ceux qui ne pourront pas être là ce soir à 11h à la médiathèque des Couronneries. Atelier philo à 18h30 à la médiathèque de Nieuil, en route de Noyers à Nieuil-l'Espoir. Autour d'un verre, vous pourrez discuter et échanger sur le thème du bonheur pour dialoguer, débattre et philosopher sans vous en rendre compte. C'est avec Julien Ledoux des Trésors de Lucrèce, pour les ados et les adultes, et c'est gratuit. Soirée drag cocon de parole à 19h au Bibliocafé, un espace doux et vibrant, une lecture drag tous les mois avec De Canberge et Maxime Alavert, accompagné d'invités. Chaque rencontre commence par une lecture drag puis s'ouvre en scène ouverte. Vous pourrez partager vos textes ou ceux que vous aimez sur le thème de la révolte cette fois-ci. Ciné-débat The Pickers, c'est à 20h30 au théâtre de la Grange au Loup, c'est à Chauvigny, dans le cadre du festival Alimentaire, projection du film The Pickers à la suite du film. Un enseignant-chercheur de Migrinter à l'université de Poitiers, spécialiste des migrations internationales, répondra à vos questions. L'entrée est libre. Et puis pendant 3 jours, à partir d'aujourd'hui, donc 100% campus, 3 jours pour mobiliser les étudiants à recruter des donneurs de demain. C'est l'établissement français du sang, l'EFS de Nouvelle-Aquitaine, et le Lions International de la Vienne qui s'unissent à nouveau pour organiser la plus grande collecte étudiante du département. Donc près de 800 donneurs sont attendus sur le campus universitaire de Poitiers. Donc un rendez-vous vital à l'approche des fêtes de fin d'année, période où la mobilisation des donneurs est traditionnellement plus faible. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour aller donner votre sang si vous êtes étudiant, c'est sur le campus. À 18h sur Pulsar, retrouvez bien sûr À l'Assaut, votre émission animée par La Fève sur l'engagement associatif. À 19h, c'est du slam dans Slam à tout va. À 20h, c'est Pétale de Sakura pour un voyage en Asie. Et à 21h, c'est Culture Dub, sans oublier 23h, Novorama pour de la pop. C'était Yann à la réalisation technique de cette émission. émission. Votre après-midi, c'est bien sûr en musique avec toute la programmation du comité de programmation musicale. Vous l'avez compris maintenant, c'est le jour, c'est éclectique et la nuit, c'est un peu plus progressif. C'est votre nouvelle programmation sur Radio Pulsar. Je vous souhaite une excellente après-midi en musique donc, et je vous dis à demain.